La REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Bonjour, rebonsoir plutôt à toutes et à tous, 18h35, nous sommes toujours le 25 août ici à l'hippodrome de Paris-Longchamp, on a beaucoup de chance, il a fait un temps magnifique depuis hier, faisons en sorte que demain ce soit la même chose, le temps est clément, avec mon complice du jour, premier plateau, Nicolas Tarade, directeur de notre chère radio, notre groupe web de radio-audition. Ça va Nicolas ?
Eh bien écoute, en pleine forme, hein. Oui, beaucoup de travail mais très intéressant, c'est toujours plaisant d'être ici au milieu de tous ces entrepreneurs, de tous ces diplomates aussi parfois, de tous ces ministres, secrétaires d'État, pouvoir. Il y a du monde qui passe par ici, donc ça fait plaisir aussi de revoir tout le monde, même masqué.
Il y a du lourd, comme dirait l'autre.
Il y a du lourd, il y a du niveau, voilà, et c'est important, c'est l'événement de la rentrée, il fallait marquer le coup est marqué.
Alors moi, je ne vais pas bouder mon plaisir, parce qu'effectivement, on a démarré le groupe web de radio-édition, et merci à vous qui nous écoutez, il y a pratiquement 6 ans, et notre premier événement sur lequel on s'est beaucoup exposé, c'était à Jouy-en-Josas, chez HEC. Et j'ai le plaisir de rencontrer une personne qui m'a beaucoup inspiré aussi, je lui dis, puisque je la vois régulièrement chaque année, elle nous a fait le plaisir et l'honneur d'être sur le plateau, c'est Viviane Chen-Ribeiro, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Bien, très bien même.
Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Alors Viviane, vous êtes présidente du conseil de surveillance de Talentia, une entreprise que vous avez fondée. Vous le rappelez.
Que j'ai repris en 2007.
Voilà, que vous avez repris. Vous êtes président de la commission économie internationale.
Europe et internationale.
Voilà, Europe et internationale au MEDEF, et vous êtes président de la Fédération des très petites entreprises.
Oui.
FTPE, Fédération des... C'est quoi exactement ?
Bah, les entreprises de moins de 10 personnes, moins de 20 au niveau définition européenne, mais moins de 10 définition française. Des entrepreneurs qui quelquefois disent « Oh là là, Talentia Software, vous avez 430 personnes, c'est compliqué, c'est dur à gérer. » Et j'ai pour l'habitude de leur répondre ce que je pense très sincèrement, « Non, c'est beaucoup plus compliqué pour vous. » Parce qu'il est beaucoup plus compliqué de gérer tout seul 10 personnes. Moi, 430 personnes, j'ai une DRH, un directeur financier, un directeur technique, un directeur des services. C'est eux qu'on les ennuie, pas moi.
Bon, c'est pas le même niveau d'exposition non plus.
C'est pas le même niveau d'exposition, mais ils sont à la fois les experts de leur entreprise. Ils ont des experts bien souvent aussi, mais ils sont les experts, ils sont chefs experts, ils ont tous les ennuis administratifs, et Dieu sait que nous sommes des spécialistes en France.
C'est clair.
Concernant la lourdeur administrative de nos procédures, et ils ont aussi tous les risques. Hein, parce que ce soit la santé au travail, et on l'a vu ces dernières années, ces deux dernières années, que ce soit la santé au travail, que ce soit les risques professionnels, que ce soit les risques prud'homaux du droit du travail, la lourdeur du droit du travail. Vous rendez compte ce que ça représente pour un patron de TPE ?
C'est clair.
Comment voulez-vous qu'il puisse... Je suis en train de préparer... Je suis en train d'essayer de monter une conférence sur la responsabilité de l'entreprise et la responsabilité du chef d'entreprise. Pourquoi ? Parce que je pense que la plupart ne sont même pas conscients des épées de Damoclès qu'ils ont au-dessus de la tête. Remarquez, vaut mieux pas, peut-être qu'ils n'entreprendraient pas, donc ça serait dommage. Mais je pense qu'on est en train de pousser le bouchon un peu trop loin sur le fait de porter trop de choses. On le voit avec le pass sanitaire, on le voit avec le fait de devoir mettre des... au lieu de déclarer qu'il y a une loi et que la vaccination est obligatoire, donc la responsabilité est du côté du gouvernement, on porte ça au niveau des chefs d'entreprise et on leur dit, si votre salarié se fait pas vacciner, c'est vous qui prenez la décision, vous le licenciez. Je pense qu'on va un petit peu trop loin. On a le devoir de vigilance qui est dans la loi aujourd'hui. Il y avait le principe de précaution. Maintenant, on a le devoir de vigilance. C'est-à-dire que, on en discute sur cette responsabilité. Être obligé de contrôler le sous-traitant du sous-traitant ou le fournisseur du sous-traitant, et au bout du bout, vous êtes quand même responsable. Je crois qu'on va un peu trop loin.
Viviane, est-ce que c'est une inégalité de traitement ? Parce que finalement, je donne un exemple. prenez le contrat d'un mandataire social d'une petite PME qui est en SASU, en SAS, etc. Il finance sa feuille de route parce qu'il peut être salarié de sa boîte. Mmh. Sauf qu'il y a un truc qu'il n'a pas, c'est que si jamais il se plante, exactement, il a droit à zéro. Les salariés, eux, ils ont droit. C'est très bien.
Là, mais vous avez entièrement raison.
L'énergie
parce que...
et de la responsabilité, et je parle de la responsabilité pénale également,
oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une inégalité de traitement qui est quand même paradoxale? Parce que quand on entend le président de la République, pardonnez-moi, mais vive l'entrepreneuriat, il fait des blogs, on a fait des dossiers là-dessus. On va assouplir le millefeuille normatif, etc., avec des normes, plus de 400 000 normes, faut quand même le dire. C'est parfois le parcours du combattant quand on a certains pays anglo-saxons où il faut à peu près 35 minutes pour monter une entreprise.
D'abord, le Code du travail a encore augmenté en nombre de pages. Donc, contrairement à ce que voulait Pierre Gattaz, on compare, moi, la dernière acquisition de Talentia, je l'ai fait en Suisse. Si on part au Code du travail, vous comparez le Code du travail suisse et le français, déjà, il y a une grosse épaisseur de nombre de pages de différence. Non. Si je reviens à ça, s'il y a une inégalité, oui, complète.
Voire même une discrimination.
Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle le TNS, le travailleur non salarié, qui est donc gérant d'entreprise, je pense qu'il faut à tout prix qu'on remette tout ça à plat. Ça a été un sujet de discussion ce matin à Bercy, d'ailleurs, parce que là, ils vont encore sortir effectivement des règles différentes pour les indépendants. Ça va être encore des règles différentes. Et je pense que quand on arrive à la protection sociale et quand on arrive effectivement aux retraites, à la protection sociale, à la protection de sa propre famille, il faudrait qu'on arrive à avoir, quel que soit son statut, c'est-à-dire travailleur non salarié, salarié, indépendant, auto-entrepreneur, une heure travaillée, on a les mêmes devoirs et on a les mêmes droits. Voilà.
Intéressant, et, oui, très intéressant. Bah,
il faut qu'on arrive à cette harmonisation et je vais vous dire pourquoi. Parce que on avait, vous savez, il y a toujours en termes d'économie des périodes et on revient. Regardez, si l'on prend la première partie du XXe siècle, on avait petit à petit l'emploi salarié avec les syndicats, donc avant les années 50. Mais vous aviez beaucoup d'indépendants. Vous aviez beaucoup de gens qui étaient à leur compte, ce qu'on appelait être à son compte à l'époque. On n'appelait pas les auto-entrepreneurs, on n'appelait pas les indépendants. Vous aviez beaucoup de gens. Et petit à petit, le monde du travail est devenu, avec une majorité de salariés, défendu par un droit du travail, par des syndicats, etc. Et puis, les professions libérales, les indépendants, il y en a eu moins. Et aujourd'hui, on a l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui, de façon subie ou de façon volontaire, quittent le salariat et ou quittent partiellement le salariat, et c'est là où je veux en venir, et qui vont devenir multistatut. C'est-à-dire que des gens qui vont être salariés à mi-temps, ouais, qui vont créer leur start-up l'après-midi et qui vont faire deux heures d'Uber le soir pour mettre du beurre dans les épinards, justement.
On précarise le statut, en plus.
Alors là, je vous donne quand même en mille de savoir comment ils s'y retrouvent, dans où est-ce qu'ils payent leurs cotisations, par quoi ils sont couverts et comment ils sont couverts. C'est kafkaïen.
Et quand bien même ils s'y retrouveraient, ils prendraient
si
des journées durant.
Et si jamais l'activité du soir, c'est pas Uber, mais c'est parce qu'ils jouent de la guitare dans un club où ils chantent, là, ils ont une partie d'intermittence.
Et en plus, il a des heures à compter.
Je vous souhaite
bonne
chance. Bien sûr,
ouais, c'est presque un sketch. Hein,
c'est presque un sketch, effectivement. Je caricature.
On a des jeunes aujourd'hui qu'on a reçus. C'est incroyable, parce que quand vous disiez cela, on a rencontré des personnes qui avaient trois fonctions.
Mais bien
sur
sûr.
Trois statuts différents.
Mais bien sûr. Et bien
c'est
sûr. Et c'est pour ça. Et bien, c'est bien pour ça que je vous dis qu'il va bien falloir travailler.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait, un statut universel, quelque chose comme ça? C'est quoi l'idée, en fait?
C'est pas ça. Pourquoi des salariés sont très protégés? Parce qu'ils sont salariés et qu'ils ont un droit du travail et il y a une surprotection.
Claire, très clair.
Très très clair. Et puis de l'autre côté, il y a une précarisation. Des indépendants,
et des statuts entrepreneurs
et des statuts intermédiaires. Et donc ce multistatut, moi je crois qu'on va en avoir de plus en plus. Encore une fois, de façon à un certain niveau, par exemple, j'ai été présidente de la Fédération Syntec, 57% d'ingénieurs, ils sont indépendants, Et ce sont des indépendants qui gagnent très correctement leur vie parce qu'il y a du travail et du travail de qualité. Mais il faut aussi qu'ils maintiennent leurs compétences à niveau. Et ça, c'est quand même un vrai sujet pour eux. Donc vous voyez, même au niveau de la formation, on dit maintenant aux salariés, vous avez votre compte personnel de formation, votre CPS, votre CPF. Voilà. Et puis vous recevez des SMS du ministère du Travail qui vous dit « Ah, vous avez 10 heures de CPF, vous les avez pas, vous avez pas consommé. » Oui, d'accord, mais l'indépendant, lui, il faut qu'il s'arrête, ouais. Il faut qu'il se paye sa propre formation. Ouais. D'accord ? Et pendant ce temps-là, il ne facture pas. Il ne fait pas de chiffre d'affaires.
Et s'il est en chute d'activité, il n'a aucun revenu de remplacement ?
Alors, là, pas été vrai pendant, pendant la pandémie, ah, oui. puisqu'il y a eu le fonds de solidarité.
1 500 euros par mois.
Pardon ?
1 500 euros par mois pour les
indépendants. Oui. Mais pour un certain nombre d'indépendants, ces 1 500 euros par mois étaient corrects. Je ne parle pas, encore une fois, des indépendants consultants sont Syntec ou etc.
Oui, parce qu'on ne peut pas dire que 1 500 euros par mois, ce soit un revenu médian ça permet de survivre.
Mais ça permet de survivre. Permet de survivre. Et alors, il y a eu des cas, par contre, où les 1 500 euros étaient donnés au niveau de l'entreprise et n'étaient pas forcément donnés à titre personnel.
Exact.
C'est d'ailleurs pour ça qu'après, c'est parti en jusqu'à 10 000 avec des pourcentages, jusqu'à 10 000 euros, avec des pourcentages dépendant de la perte de chiffre d'affaires.
Dans vos différentes fonctions, Viviane, vous avez eu accès au pouvoir. Vous avez rencontré président, ministre, sénateur, parlementaire, vous avez un réseau important. Première question, est-ce qu'ils ont conscience de cela, très concrètement, parce qu'il ne faut vraiment pas être sorti de l'ENA pour comprendre qu'il y a un vrai souci quelque part. Et deux, si leur marge de manœuvre est réduite, à quoi elle est due ? Par la lourdeur des institutions ou est-ce qu'il faudrait qu'on aille jusqu'à un plan Marshall de réforme des institutions dans ce pays pour que ce soit un vrai pays d'entrepreneurs et pas un pays salarié ?
Vous avez la même chose sur les prestations sociales. Pourquoi toutes les prestations sociales, on ne peut pas faire une prestation unique qui comprendrait un revenu universel de base ? D'accord ? Pourquoi on ne peut pas faire ça ?
Qui avait été proposé d'ailleurs par certains candidats à la présidentielle.
Qui avait été proposé et qui seront, j'espère, encore proposés. Au moins, on remettrait tout le monde sur d'abord les mêmes critères pour accorder les aides. Les critères seraient identiques, alors que là, toutes les aides logement, les aides étudiants, etc.,
il n'y a aucun
critère d'attribution qui n'est identique dépendant des aides. Donc, vous n'avez, à ce moment-là, il y a forcément des passages et des problèmes. Là, si on en faisait une unique, mais ce n'est pas le seul. Si on parle des conséquences aujourd'hui, on a une accélération, cette pandémie, si on parle des conséquences de la pandémie, on a une accélération évidente de phénomènes que l'on sentait, donc de plus en plus d'indépendants, de plus en plus de multistatuts, des gens qui vont vouloir travailler différemment, qui ne voudront pas forcément travailler moins. Et aujourd'hui, on avait déjà une inadéquation entre le droit du travail, notre droit du travail, d'accord, je ne vais pas dire de 10 000 pages parce que je ne connais pas le nombre de pages, mais voilà, et ce qui se passait en réalité sur le terrain, hormis le travail posté dans les usines, etc., qui là est très codifié. Et on avait déjà cette idée. Et là, cette inadéquation, elle est encore pire. Comment vous réglez le télétravail ? Comment vous réglez les accidents du travail quand vous êtes chez vous et que vous faites tomber, vous faites un thé et que vous faites tomber la bouilloire sur le pied ? Encore une fois, je caricature.
Non, mais c'est très prosaïque. C'est-à-dire qu'en fait, ça illustre bien, ça impacte bien. Là, je peux vous dire que les personnes vont s'y reconnaître.
On a un droit du travail. Je vous prends un exemple. J'ai annoncé où j'ai eu un jour la visite d'un inspecteur du travail et qui me dit « Ah bon, vous n'avez pas de feuille d'heure, etc. Vous voulez... OK, on va en mettre. » J'ai réuni mon CE qui m'a dit « Mais attends... Ça va pas, non. On va pas non plus saisir nos heures. Nous, on revient de chez les clients. Enfin, on avait un mode de fonctionnement qui faisait que les gens s'équilibraient. On s'adresse à des consultants, on s'adresse à des gens qui ont un salaire moyen élevé. Donc, dans l'entreprise, donc, on s'adresse à des gens qui sont indépendants, qui sont matures, qui gèrent leurs clients, qui veillent à ce que leurs prestations soient payées à juste titre, etc. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez des critères d'évaluation. le client est satisfait, il paye ses factures, ça veut dire que le consultant a fait son job.
Bien sûr.
Comme il a fait le travail. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut pour autant des règles et vous avez Ernst & Young, EY qui s'est fait attraper, avez KPMG qui s'est fait rattraper, etc.
Qu'est-ce qui vous répondent les politiques que vous connaissez bien aujourd'hui?
Les politiques,
vous avez raison,
un certain nombre comprennent qu'on puisse dire ça. Le problème, et le vrai problème, c'est quelle est l'acceptation sociale des Français de cette
évolution.
Parce
que tout ça est de nature à créer des mouvements dont on ne maîtrise plus le contrôle. On n'a plus du tout le contrôle.
Ce qui est terrible, c'est
pourquoi il n'y a pas un gilet jaune de l'entrepreneuriat?
Regardez, vous parlez de Radio Immo. Bon, il y a le problème du logement. Il y a le problème de la mobilité. D'accord. Il y a le problème de la formation. Aujourd'hui, j'ai dit ce matin à Bercy, qu'au lieu de faire, quand on a fait la loi sur la formation en 2018, et Ruth Bézieux tout à l'heure a dit qu'ils étaient en train de retravailler dessus, pourquoi? Parce que le France compétences globales, c'est bassin d'emploi compétences qu'il fallait faire. C'est bassin d'emploi compétences, c'est dans les bassins d'emploi qu'on peut réunir les fédérations professionnelles, les collectivités locales.
À l'échelle du territoire, de façon
à l'échelle
spécifique.
Du territoire, parce que de toute façon, c'est localement qu'une usine va licencier 50 postes parce qu'elle va robotiser, des chaînes. Oui. Et c'est là où peut-être une société de services va se créer en service à la personne, qu'un EHPAD va s'ouvrir. Et donc, alors vous allez me dire, comment transformer des ouvriers ou des ouvrières qui étaient sur une chaîne? Que les caisses automatiques dans les supermarchés vont remplacer des caissières. Et donc, à un moment donné, il va falloir... Et si on ne... n'agit pas très très vite sur les transformations de compétences, on va créer de la détresse sociale. Si on crée de la détresse sociale, les gilets jaunes, en comparaison de ce qui nous attend, ça va être de la rigolade. C'était de la rigolade.
Alors, les gilets jaunes de l'entrepreneuriat, ça vient, parce que quand vous dites que ça crée de la détresse sociale, c'est déjà le cas. Pour beaucoup de petits indépendants précaires.
Oui.
Comment se fait-il, Viviane, qu'il n'y ait pas une cristallisation de tout cela qui s'organise et qui permet de dire à un moment donné c'est stop, quoi. Stop.
Écoutez, on essaye de défendre, on est plusieurs, hein, la fédération, l'union des auto-entrepreneurs, etc. On essaye de défendre on va voir quelles vont être les propositions de loi qui vont sortir pour mieux les protéger, pour mieux les couvrir. Ceci étant dit, c'est encore, enfin, je veux pas entre guillemets cracher dans la soupe, mais c'est encore une proposition de loi qui va venir s'ajouter, qui va rajouter des pages, qui va complexifier les indépendants qui sont de toute façon de nature différente. Entre un indépendant qui travaille au niveau de la fédération Syntex, c'est-à-dire un informaticien qui travaille en indépendant, et un livreur de Deliveroo. Vous voyez bien qu'il y a un monde et que les besoins
ne sont
pas les mêmes. Un livreur de
Deliveroo ou un livreur de chez Uber Eats ou autre, c'est de l'économie de survie.
Mais oui, c'est de l'économie de survie.
C'est des gamins qui sont en mobylette, qui sont prêts à se flinguer pour livrer des...
Ils ne peuvent pas se payer les mêmes couvertures, et c'est les mêmes couvertures sociales. Et c'est bien pour ça qu'il faut que l'on repense globalement et que l'on remette à plat à la fois... Un droit du travail qui soit simplifié, beaucoup plus basé sur l'initiative, effectivement. Moi, quand j'entends, et il a raison, Geoffroy Roux-de-Bézieux dire « on s'aperçoit qu'en France, le niveau le plus bas de chômage, c'est 7 à 8%, c'est pas possible. Alors, effectivement, il faut revoir les indemnisations. Tant qu'on aura, on a créé un SMIC, on a tellement de charges que, au lieu de regarder comment on pouvait alléger ces charges, on a créé des niches. Donc, on a pratiquement annulé les charges jusqu'à 1,6 SMIC, d'accord, jusqu'à 1,6 SMIC. Mais résultat, on a créé une trappe à bas salaire.
C'est ça. Exactement.
On a créé une trappe à bas salaire parce que vous n'allez pas augmenter vos collaborateurs si vous avez payé des charges. Donc on est en train de tomber, pour ne pas bouger des fondements dans un système où on tombe en absurdité. Quoi.
Enfin, donc, mais justement, ces absurdités sont liées peut-être à une sclérose des institutions. Est-ce que tout cela, comme tout mouvement organique, a son terme ? Et peut finalement, de quel moment et de quel endroit la mèche va s'allumer ? On n'a pas vu arriver les gilets jaunes. Je vous rappelle, c'était, il y a deux vidéos qui ont été postées. La première qui a allumé les jaunes, c'est une personne, un cadre moyen, qui avait été postée avant la fameuse Priscilla qui avait pris le relais sur là-dessus et qui était hors de contrôle. Et comme vous le savez, un mouvement social hors de contrôle provoque anarchie.
Mais c'est bien
pourquoi
pour ça.
Pourquoi il n'y a pas un million d'entrepreneurs et de vacataires, vous savez, d'indépendants les agents co, vous avez sur des plateformes, qui travaillent avec des plateformes, par exemple, tout confondu, y compris l'immobilier. Pourquoi, à un moment donné, ils ne descendent pas dans la rue en disant stop ?
On parlait tout à l'heure, de la fin des. Je vais répondre d'une façon différente. On parlait tout à l'heure de la fin des aides. Autant les PGE vont durer jusqu'au 31 décembre, ils l'ont annoncé, le fonds de solidarité
après,
va s'arrêter.
En propre,
puisque
après.
Ce matin, le ministre Griset nous disait, nous, on voit que 99% de. En fin de compte, l'économie et les chiffres d'affaires des entreprises sont revenus à 99% de 2019. Ok, mais ça recouvre des réalités complètement différentes.
Complètement. Ça, c'est des moyennes, bien sûr.
Autant dans l'informatique et dans le
digital. Parce que je peux vous dire que
ce
n'est pas le cas de la restauration, de l'hôtellerie, bien évidemment.
Voilà. Et même là,
de l'événementiel.
Et même là, la restauration ou l'hôtellerie, ça dépend des zones géographiques.
Exactement.
Je vis à Bordeaux, sur le lac à Lacanau, station touristique. Je peux vous dire que ils ont fait leur saison. Ils ont fait une excellente saison. Et l'année dernière, ils ont fait une excellente saison. Et à la limite, ils ont été indemnisés pendant les mois d'hiver où normalement, ils sont fermés. Donc, voilà.
C'est clair. C'est prosaïque, mais c'est pragmatique.
J'essaie toujours d'être pragmatique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué.
Oui, ça, c'est clair. C'est une chose qu'on peut dire de vous, c'est que vous êtes pragmatique. Oui, ça, c'est clair. Vous ramenez à des réalités, mais ces réalités-là...
Mais je les ramène parce que c'est la vérité du terrain.
Oui.
C'est la vérité de ce qui se passe. On ne peut pas être énarque, excusez-moi, que je dois, dans un bureau et se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. D'accord ? Moi, je le sais d'autant plus. Vous le savez, j'ai présidé Action Logement Immobilier. Aujourd'hui, localement à Lacanau, je m'occupe du logement. Et je peux vous dire que je vois bien les couches qu'il y a entre les deux. Et je peux vous dire que vous, entre les couches, même s'il y a des trous dans les couches, vous ne passez pas un fil à plomb. Hein.
C'est clair.
Passez pas un fil à plomb, il ne passe pas tout droit. Hein.
Ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a quelque chose qui est sidérant et qui est même stupéfiant quand on y réfléchit. Parce qu'on voit bien que tout ça est mouvant, quelque part. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. On ne sait pas d'où ça viendra, finalement. Tout ça à terme. Parce que dire que finalement on est sur un régime pérenne ou prospérité infinie, ce n'est pas le cas.
Alors, il y a... Non,
c'est pas le cas. Il faudra bien qu'il y ait un salut quelque part. Ça viendra d'où,
Viviane ? Le problème... Alors, si on parle des situations des entreprises et des TPE juste après la pandémie, où là, le fonds de solidarité va s'arrêter. Pour beaucoup, leur activité, ils ont retrouvé à un niveau 80%, 90% d'activité. OK. Mais 10 points ou 20 points, c'est pas le profit qu'ils faisaient, c'est beaucoup plus que le profit qu'ils faisaient. Ce qui veut dire qu'ils consomment du cash, ils consomment de l'argent.
Absolument.
D'accord ? Or, ils vont avoir, pour ceux qui ont pris des PGE, les PGE à rembourser, même si on peut les étaler, ils vont avoir l'URSSAF, les décalages d'URSSAF à payer, même si on peut les étaler, on peut faire la demande de les étaler sur 36 mois, c'est vrai. Et ils vont avoir à investir. Vous prenez les commerces d'habillement, etc. Investir
en
e-commerce et ou dans le stock de renouvellement, etc. Or, moi je dis, il y a une chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est la fluidité du cash. Je m'explique. Et quand ils vont devoir payer, renouveler effectivement les stocks avec des soldes qui n'ont pas bien marché.
Clairement.
Investir dans la transformation de leur business model ou investir dans des compétences ou investir dans la formation. parce que c'est pas la formation légale qui va les aider. Le besoin est beaucoup plus que ça. Bien, tout ça va demander des fonds avec des banques qui seront frileuses, parce que le PGE, c'est de l'endettement, la dette d'URSSAF, c'est de l'endettement. On va vous dire, bah oui, mais t'es un peu trop endetté. Il faudrait pas que, du coup, les TPE qui veulent arrêteraient de payer ou qui allongeraient les délais de paiement de leurs fournisseurs, les fournisseurs étant des PME qui produisent, d'accord, et que, du coup, qui arrivent aussi sur des difficultés de cash. Enfin, veiller à la fluidité et à la circulation du crédit interentreprise, à mon avis, va être un point que j'ai recommandé ce matin et qui va être un point extrêmement important. Parce que du coup, s'il y a ça, là, on aura des dépôts de bilan, ou là, on aura des suppressions
d'emplois. La crise est à venir, finalement, quand on y réfléchit.
Parce alors, que... elle est pas, c'est non, pas mais... obligatoire, comme dirait François Bézieux, c'est pas obligatoire. Le pire n'est pas obligatoire.
Non, c'est pas obligatoire, mais le pire n'est jamais décevant non plus. Enfin, on peut le dire les choses aussi sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certains économistes qui disent OK, l'impact de la reprise par rapport à l'euphorie de se revoir, de tous se revoir, on a tous plaisir à se revoir, effectivement, va cacher peut-être une réalité à rebours qui est là-dessus. Je prends l'exemple des PGE, des volumes considérables. À partir de mars 2022, on a la possibilité de choisir l'option. On paye, on a différé déjà en mars 2022, où on étale sur une durée qui peut aller, je crois, jusqu'à 7 ans. Ce qui est quand même, vu le coût de l'argent, du quasi-fonds propre. Sauf que ça reste quand même une créance.
Ça reste une dette dans votre bilan.
Une dette dans votre bilan. C'est une dette qui, donc, non seulement pèse au bilan, etc. Autre chose, un supplément de financement peut être étalonné différemment pour justement survivre ou même innover, puisque l'innovation, c'est quand même une des clés du développement. D'abord, ça plombe le bilan, donc du coup, accès au financement pour d'autres, mais surtout que les banques, pour les petites et très moyennes entreprises, elles ne se privent pas de nantir la maison, d'hypothéquer la maison, d'hypothéquer les ressources, etc. Pour des personnes qui dépendent.
On est sur cette crête-là, on marche sur un chemin de crête.
Mais il y a une autre réalité, Viviane, sur laquelle je voudrais que vous fassiez une analogie.
Oui.
On a cette réalité-là qui est dure, très difficile, avec des banques qui sont vraiment très, très dures pour lâcher du lest là-dessus et qui nantissent, etc. Ou des personnes, si elles perdent leur entreprise, elles perdent aussi leur maison avec des situations sociales dramatiques, des couples qui divorcent. Je le sais, j'ai présidé un tribunal de commerce pendant 11 ans. Alors imaginez les situations que j'ai vues. Et à côté de ça, on a des capital développeurs, on a des business angels, et on a l'impression qu'il y a un flux de liquidité. Pour des entreprises et start-up, on a l'impression parfois que c'est des machines à incinérer des fonds propres, sur un PowerPoint, sur un truc qui fait triper tout le monde, etc. Et on a ces deux réalités qui cohabitent. Vous savez, telle entreprise vient de lever 35 millions alors qu'elle a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Je prends les cas des agences de papa, par exemple, qui a levé 30 millions d'euros pour 53 000 euros de chiffre d'affaires. Là-dessus, on se dit, mais il y a des fonds d'investissement fous. On a des
valorisations.
On a des valos sur... Je prends le cas, par exemple, de SoftBank qui a soutenu une boîte qui s'appelle WeWork, qui a été encensée là-dessus.
Que je connais bien.
Et qui a incinéré 17 milliards de fonds propres. Faut quand même, à un moment donné, il faut peut-être un peu redescendre aussi.
17 millions
millions de fonds propres, et qui a été soutenu très très largement par des banques et des fonds d'investissement sans garantie des entrepreneurs qui montent le truc. Alors moi, ce que je dis, c'est que le petit entrepreneur, vous savez, dans le territoire, qui a sa petite boîte de plomberie haute, etc., qui va garantir avec sa baraque son hypothèque parce qu'il a besoin d'un prêt de 2 ou 100 ou 300 000 euros ou de 50 000 euros. Et c'est ce qu'il va lui demander, parce que les sûretés, on les lui demande à lui.
Bien sûr.
Et à côté, vous avez des jeunes. Alors très bien, super, hein, Startup Nation, très bien, t'as le PowerPoint, hop. Je pitch, alors que je n'ai même pas créé la boîte, hein. Et puis je vais lever 1 million d'euros. Quoi.
Oui, je sais, j'en ai de certains à lever.
Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui, franchement, est de nature à énerver beaucoup des gars qui sont dans les territoires qui
si,
qui
alors,
ça.
Oui, mais... Je dis simplement qu'à un moment donné, il faut faciliter la création, il faut faciliter la créativité et il faut financer parce que il faut arrêter d'être... embarqués dans notre principe de précaution et on arrivera à avoir des entreprises internationales sur les nouvelles technologies que si on prend ce genre de risque. Ça, c'est une chose. Oui, donc, effectivement, on prend ce genre de risque, on en finance beaucoup, il y en a qui réussissent et il y en a qui brûlent du cash. Je vous suis complètement. Le vrai problème, c'est la frilosité des banques de l'autre côté pour financer des entreprises qui ne sont pas avec des fonds d'investissement, qui n'intéressent pas.
On a besoin des
TPE locales. Et alors là, ça va dépendre de la personne qu'ils auront. Ça dépend même pas de la stratégie de la banque. Ça dépend de leurs contacts.
Vous pensez que les contacts bancaires ont encore des délégations aujourd'hui ou tous décident dans les centres d'affaires maintenant ?
Ils n'en ont pas, mais ils ont la capacité de nuisance.
Donc, moi, j'ai tellement vécu en tant que président de tribunal sur des disparités de traitement incroyables que quelque part, on se dit, mais c'est un sacerdoce d'entreprendre.
Et en plus, ces entreprises, on va avoir la problématique de la rareté des approvisionnements.
On le voit dans le bâtiment, dans la technologie, dans les
matières premières.
Vous vous rendez compte que 90% des
terrasses en bois,
90% des molécules de santé, vous savez, avec quoi on fait des médicaments, tu sais d'où elles viennent ? Elles viennent de Chine.
Oui, mais il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Donc il faut à tout prix rééquilibrer, mais. Et tout ça, en fin de compte, est très complexe. Moi, je regrette. On a eu un commissaire au plan. D'ailleurs, je cherche ce qu'il fait. Je voudrais bien voir son agenda de journée. Revenons sérieusement. C'était pas idiot d'avoir quelqu'un au plan.
Mais vous savez que le plan, ça serait bien de le remettre.
Il faudrait l'avoir dans chaque pays européen. D'accord.
Mais à une mode gaulliste, vous savez. Vous savez que le père de Manuel Wargon et Ernesto Leru, ancien ministre du général de Gaulle aussi, et qui a été un grand homme politique, a créé le commissariat au plan, Ernesto Leru.
Mais si vous voulez, pour moi, il faut vraiment que l'on parte. La Chine fonctionne avec des plans. Et donc, il faut vraiment que l'on parte comme ça, mais que l'on parte au niveau européen, qu'on en ait un dans chaque pays, et que Thierry Breton, par exemple, nous les coordonne.
Et où l'idée de la francophonie économique, par exemple, peut être.
Et au moins là, on avancera sur des projets européens. Parce qu'on parle de la France, mais il ne faut pas oublier que se joue au niveau de l'Europe notre avenir. L'avenir européen reste à savoir si on sera demain une puissance qui parlera à égalité à la fois avec les Américains
et
la Chine, ou qui deviendra ou qui voudra rester un vassal. On choisit ce qu'on veut devenir.
Voilà. Ce sera le mot. Ça s'appelle une punchline. Ça.
Je pense que ce sera le mot de la fin.
J'aime beaucoup. Là, on va reprendre l'idée. En tout cas, c'est vraiment. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau parce que. Vous dites les choses telles qu'elles sont. Je pense que la provocation du débat, c'est aussi la garantie d'une vitalité démocratique. Et à l'égard de ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait justement la gueule nécessaire, si permettez-moi l'expression, justement pour dire les choses. Voilà, Viviane Chedribero, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes président du conseil de surveillance de Talentia. Vous êtes président de la commission Europe internationale pour le MEDEF et président de la Fédération des très petites entreprises. Surtout, ne changez rien. Et vous nous avez fait une promesse, je vous prends en otage devant nos auditeurs, de venir faire un Mac de Limo, un portrait de vous. On a envie de vous connaître un peu plus, parce que c'est frustrant, on aimerait rester beaucoup plus longtemps avec vous. Merci à vous.
Merci. Merci à vous.
La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF, à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.